peut avoir un pouvoir de séduction aux habits exemplaires, mais il faut que sa séduction soit toujours finalisée. Pour moi, elle devient mauvaise. Devenir gendarme en donnant des amendes et par la crainte. Attention, attention. Alors à ce moment-là, c'est le point de vue de l'autorité qui s'exerce par mode de crainte. Alors si l'autorité se sert de ce mode du pouvoir par mode de crainte, ça doit être toujours plus bon. C'est pour votre bien que je vous dis ça. C'est pour votre bien. Tandis que c'était uniquement le pouvoir, ce serait par mode. Tu ne peux pas faire autrement. Tu tombes dans le piège. Dernier article. L'antéchrist peut-il être appelé tête de tous les méchants? Ça. Au sujet de cette parole de Job, interrogez l'un quelconque des voyageurs, la glose est gris. Tandis que l'auteur parlait du corps de tous les méchants, subitement, il tourne son discours vers leur tête, l'antéchrist. Ça, c'est la glose malienne. Vous voyez, comme autorité, c'est pas énorme. Hein, c'est pas énorme. Il faut bien se dire ça. La glose marginale c'est l'autorité qui représente l'opinion d'un moment, l'opinion théologique. Pas plus. Alors, comme nous l'avons déjà dit, il y a trois choses à considérer au sujet de la tête naturelle. Alors, nous revenons, vous voyez, alors c'est très curieux, les divisions, et ça c'est très intéressant à voir hein, dans ces choses-là. Satan n'emploie pas toujours les mêmes divisions. Influx intérieur, influx externe. Comme nous l'avons déjà dit, alors c'est l'article premier, trois choses à considérer au sujet de la tête naturelle. L'ordre, la perfection et le pouvoir d'influence. Alors, pouvoir d'influence, il se subdivise. Pouvoir d'influence interne, le pouvoir d'influence externe. C'est en ce sens-là que nous pouvons voir ces subdivisions. Dans l'ordre temporel, l'antéchrist n'est pas tête des méchants. Car son péché ne les a pas précédés, comme cela s'est produit pour le péché du diable. Pour être tête dans l'ordre temporel, il faut être premier. Toujours, l'idée de tête, c'est toujours l'idée de premier. Hein. C'est l'idée de premier. C'est ça qui fait la tête. Il n'y a pas d'avantage au point de vue du pouvoir d'influence, bien qu'en fait, ils doivent, par suggestion, extérieur, entraîner au mal ceux qui vivront de son temps. Cependant, ceux qui vivront avant lui ne sauraient être entraînés par lui, ni même imiter sa malice. En ce sens, il ne pourrait donc être tête que de quelques méchants. Mais il reste qu'il est appelé tête de tous les méchants en raison de la perfection de sa malice. Dans l'ordre de la malice, on ne fait pas mieux. Alors, il est tête, cause exemplaire, maxime étalé. Aussi, à propos de cette parole de la deuxième épître aux Thessaloniciens, il se présente comme s'il était Dieu, et la glose écrit-elle, de même que dans le Christ habite la plénitude de la divinité, ainsi dans l'antéchrist se trouve la plénitude de la malice. Il ne faut pas faire une analogie trop forte hein, entre les deux, parce qu'autrement ils seraient dans le même genre. Certes, l'humanité de l'antéchrist ne doit pas être assumée par le diable dans l'unité de personne comme l'a été l'humanité du Christ par le Fils de Dieu. Mais le diable lui communiquera par suggestion sa malice plus qu'à tous les autres. Et c'est surtout parce qu'il y a un contrat, il y a une alliance. Alors, parce qu'il y a une alliance, le diable peut lui communiquer plus qu'à tout autre. Et c'est pourquoi tous les autres méchants qui l'ont précédé sont comme une image de l'Antéchrist. Selon cette parole de l'apôtre, le mystère d'iniquité est déjà accompli. Donc vous voyez comment nous pouvons parler de l'Antéchrist comme tête. C'est déjà beaucoup plus dérivé. Mais c'est normal qu'il y ait plusieurs têtes, parce qu'on est dans l'anarchie. Il n'y a qu'une tête au point de vue de la grâce, le Christ. Mais nous avons vu que cette tête pouvait être participée par le pouvoir extérieur. Les sacrements, la sacramentalité, va mettre une hiérarchie sous la tête principale de Christ. Mais au niveau instrumental, au niveau justement sacramental, il y a une hiérarchie et donc il y a une tête. L'évêque est tête dans la sacramentalité de l'Église. Pas autrement. Dans la sacramentalité de l'Église. Tandis que le Christ est tête par la plénitude de sa grâce. Donc, là, il y a une hiérarchie qui dure éternellement. Tandis que l'autre hiérarchie est propre à la terre, comme la sacramentalité. Et elle est pour le mystère de la terre. Le démon, lui, est tête, non pas du tout par un influx intérieur, mais par un influx extérieur, mais il peut avoir comme une espèce de pouvoir universel à l'égard de tous ceux qui disent le non serviam, je ne servirai pas. Tous ceux qui sont révolutionnaires au niveau proprement chrétien. Et l'Antéchrist est tête, non pas de tous, mais l'Antéchrist peut être tête dans le sens qu'il y a une plénitude de malice. Il dépasse la malice de tous les autres. Et s'il dépasse la malice de tous les autres, ben, il y a quelque chose qui fait qu'il est premier. Vous voyez la première objection, hein ? La première objection, un corps unique ne peut avoir plusieurs têtes. Mais nous devons dire que le diable est tête de la multitude des méchants. L'Antéchrist ne peut donc aussi être leur tête. Alors saint Thomas revient, il répond, le diable et l'Antéchrist ne constituent pas deux têtes, mais une seule. Car l'Antéchrist est appelé tête parce qu'en lui, la malice du péché se trouve imprimée en plénitude. C'est pourquoi, au sujet de cette parole, il se présente comme s'il était Dieu. La glose écrit encore, en lui se trouve la tête de tous les méchants. C'est-à-dire, le diable qui est le roi de tous les fils d'orgueil, il s'y trouve, à vrai dire, par l'effet de sa malice, et non par union personnelle ou par habitation intime, comme il appartient à la Trinité seule, de pénétrer dans l'intime de l'âme, selon ce qui est écrit au livre des dogmes ecclésiastiques. Donc vous voyez cette chose aussi très importante là, qui montre bien que c'est par rapport à un degré de malice, qui était dit du reste encore de l'article, à un degré de malice. Il est par le point de vue de la causalité exemplaire, mais une causalité exemplaire inversée. Parce que la causalité exemplaire, d'habitude, c'est la perfection de la forme. Là, c'est la perfection de la privation. Puisque la malice, c'est la privation. Donc c'est le maxime étalé dans l'ordre de la privation. Dans l'ordre de la privation, dans l'ordre de la privation, il a une primauté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire profondément ? Ça veut dire que nous appelons tête partout où nous trouvons quelque chose qui a une primauté. L'analogie joue jusque-là, tout simplement. Oui.
Saint Thomas montre que le diable est la tête comme le Christ. Là, il montre ensuite qu'il y a d'autres têtes.
Il y a d'autres têtes, c'est le Christ.
Alors, Alors est-ce qu'on peut dire aussi que
l'arrivée, c'est la même grosse tête par la vie.
C'est ça. Alors est-ce qu'on peut dire que l'arrivée, c'est comme le
sera. Qu'est-ce qu'il y a?
Il y a un nom d'église qui est l'antipain. Donc quelqu'un qui ferait l'imité.
Non, c'est l'imitation, ça. Le démon ne peut faire que des imitations.
C'est ça. Alors là, il n'a parlé que de l'imitation du Christ, qui n'est pas de ce monde. Le diable n'est pas de ce monde. Il parle des antichrists qui peuvent être multiples à une même époque, mais qui ont un pouvoir unique. Est-ce qu'on peut dire qu'il existe aussi un antichrist qui est en fait un antipape?
Il l'est forcément.
Est-ce qu'il y a une unité?
Il n'y a pas d'unité.
Même unité,
c'est l'unité dans la malice. Voilà. Quelle est l'unité dans la malice? C'est une anarchie.
Voilà, c'est ça.
Et l'unité se fait par l'anarchie, c'est-à-dire par un procédé d'intimidation. Ou par un procédé de séduction.
Est-ce que des gens qui sont pervertis et qui ont des pouvoirs immenses ne peuvent pas avoir une certaine connivence dans le mal?
Ah non, sûrement.
Et
sûrement, ça ne peut pas être autrement. Ils sont, ceux qui sont dans les ténèbres sont quelquefois plus unis que ceux qui sont dans la lumière. Ils sont unis par le point de vue de la malice. Et par le désir, je dis c'est l'amitié des brigands. C'est une amitié utilitaire. Tant que ça sert et que ça rapporte, on est unis. Le jour où ça ne rapporte plus, on n'est plus unis. Mais c'est une unité vraiment d'ordre utilitaire. C'est une amitié utilitaire. C'est l'amitié utilitaire.
Et on peut penser que ça existe au niveau mondial.
Mondial. Sûrement. Et international. C'est l'international, dans l'ordre de l'international. Pas tout international, c'est une internationale.
Là, il semble quand même le rapporter, mais ce qui me frappe, quand il parle de l'antipape, le pape est tout au long de l'histoire. Alors que là, il semble bien laisser la possibilité qu'il y ait plusieurs antichrists, mais il semble bien parler d'un être personnel.
C'est
l'antichrist, là.
C'est vite. C'est
ça paraît comme un sommet au niveau de l'humanité dans la malice. Mais comme une personne, de la même manière que le diable est sommé dans l'ordre des anges.
C'est
quelque chose qui semble.
Comme nous l'avons déjà dit, bien que Dieu soit tête de
l'Église,
le Christ n'est pas moins tête de l'Église. Ainsi, tout en étant membre du diable, l'Antéchrist est tête de l'Église. Il est membre du diable. Donc il y a un lien.
Une espèce d'unité, le plus mauvais homme et le plus mauvais ange.
Mais c'est d'un côté c'est positif et c'est premier, de l'autre côté c'est toujours relatif. C'est la grimace.
Alors on aurait presque une grimace de Jésus et Marie.
Ah tout à fait, la bête de la terre et la bête de la mer. Je crois.
Mais ça veut dire que c'est quand même un être personnel qui viendra à un moment déterminé. Il y aura bien un antichrist qui est vraiment celui qui est la prophétie.
Vous ne pouvez pas l'affirmer de façon absolue.
Saint Jean dit que l'antichrist est déjà là.
Il est déjà là. Et il y a eu beaucoup d'antéchrists.
Mais il peut y en avoir plusieurs.
Oui. Il peut y avoir une progression.
Est-ce qu'il n'y a pas
une progression dans le mal? Vous voyez? C'est là où l'évolution joue. Il peut y avoir une progression dans le mal. Il peut y avoir une dialectique dans le mal. Vous voyez? La petite dialectique montrée admirablement dans les 11 premiers chapitres de la Genèse, pour moi, est un prototype de la dialectique qui joue au niveau de tout l'univers, au niveau de l'Église. Et le dernier symbolisme de la chose, c'est la tour de Babel. Et dans la tour de Babel, vous voyez bien une espèce de lien entre tous ceux qui sont en cette contrat, en opposition. Ils rejettent Dieu, c'est sûr. Donc là, il y a quelque chose de comme... C'est pour ça que je prends l'exemple de l'amitié utilitaire qui existe chez les voleurs. Parce que c'est ça qui doit nous aider à comprendre ce que représente cette unité dans l'anarchie. Ils ont brisé le lien avec la finalité. Or, l'unité se fait toujours dans l'amour et par la finalité. S'ils ont brisé ce lien de l'unité par la finalité et par l'amour, il y a d'autres liens d'unité. Donc, ces autres liens d'unité, c'est quoi? C'est l'efficacité dans le pouvoir. C'est la séduction. Alors, dans la séduction, il y a la rivalité. Moi, j'en ai plus que toi. J'en séduis beaucoup plus que toi. Donc, il y a la rivalité. C'est très curieux. Et à l'intérieur de l'unité, il y a cette rivalité. Parce qu'il n'y a pas d'unité qui se vient du côté de la finalité. Alors vous avez les deux, c'est pour ça que tout à l'heure quand je vous disais le point de vue du pouvoir, le pouvoir par la cause à l'exemplaire et le pouvoir par le point de vue de la crainte, je crois que c'est assez juste, parce que ça ferait comprendre comment à l'intérieur de ce que représente le royaume des ténèbres et donc le royaume du diable, vous voyez les rivalités de cause exemplaire, des petites têtes qui rivalisent les unes avec les autres. Et là c'est juste l'inverse de l'unité. Il y a une rivalité, toujours une tension. Et il y a une certaine unité par le bas, par les points de vue d'efficacité de la crainte.
Est-ce qu'on peut dire que cette unité va durer autant que le temps, puisque...
Elle durera jusqu'à la fin.
Parce qu'après le temps, ils n'auront plus de possibilité d'exercer leur malice.
Entre eux. Entre eux. Ce qui reste dans le temps, eux. Ben, c'est pas déterminé, ils sont en dehors de l'éternité, ils dureront toujours, et ils sont à la durée. Dans la durée, il y a moins de rivalité.
Il y a quand même, il semble qu'il y en a un peu plus, comme une caricature de la finalité, quand saint Thomas dit la fin du diable, c'est de se détourner les créatures. Il dit le fait de se détourner de Dieu a raison de fin, en tant qu'il est désiré par le libre arbitre.
Oui, mais ça
c'est plus que l'efficacité.
Quoi ?
C'est plus que l'efficacité.
C'est plus que l'efficacité. C'est une fausse fin.
Oui, c'est une fausse fin. Mais...
Alors, une fausse fin, c'est la causalité exemplaire. Donc, c'est jouer le rôle d'une séduction. Moi, je crois que c'est ça. C'est pour ça qu'il faut intervenir au point de vue de la causalité exemplaire. Mais ça reste dans l'ordre du pouvoir. S'il n'y a plus d'amour, s'il n'y a plus de finalité, qu'est-ce qui peut unir et qu'est-ce qui peut faire que tous les efforts sont comme une fin ? Parce qu'on fait ça, détourner de Dieu et ce qui joue le rôle d'une certaine finalité. Qu'est-ce qu'il y a de commun ? C'est ça. Alors, est-ce que ce n'est pas la causalité exemplaire qui, à ce moment-là, l'emporte ? Oui, je ne vois pas très... Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre ? Vous voyez, si je cherche à comprendre, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre ? Qu'est-ce qui unit les méchants ? Qu'est-ce qui unit les méchants ? Je crois que c'est l'orgueil qui est ce qui permet de rejeter et de dire le non-serviable, c'est l'orgueil. Donc de détourner Dieu. C'est-à-dire de se mettre à la place du Dieu. En définitive, c'est ça. Si on veut détourner, si on ne veut pas qu'on suive Dieu, on se met à la place de Dieu. Donc c'est l'orgueil. Alors, l'orgueil, c'est toujours la cause à l'exemplaire. Oui. Alors c'est une certaine finalité, ça je suis d'accord, c'est une certaine finalité. Dans la cause exemplaire, il y a une certaine finalité. Tandis que dans le point de vue de la pure efficience, il n'y a pas de finalité, ça je suis d'accord. Oui. Tandis que dans la cause exemplaire, il y a une certaine finalité. Je veux jouer ce rôle particulier d'attirer en détournant. Qu'est-ce que vous avez d'autre ? Réfléchissez pour voir s'il y a autre chose que ça. Il me semble que c'est la causalité exemplaire qui joue ce rôle de celui qui veut. Vous voyez, par la causalité exemplaire, on attire, on séduit. Attirer, c'est séduire. C'est une certaine attraction quand même. Celui qui séduit, attire. Mais c'est une attirance qui n'aboutit pas. C'est une attirance fausse. On séduit. On joue un jeu de séduction. Et jouer un rôle de séduction, c'est attirer à nous. Et jouer ce rôle, on devient la vraie finalité. Le démon ne peut pas avoir d'autre finalité que d'attirer à nous. Je crois. Comme orgueil. L'orgueil du démon. Or, tous les petites autres têtes, les antéchrists compris, ont les mêmes mœurs que le démon. C'est-à-dire, c'est toujours l'orgueil. On est antéchrist que par l'orgueil, on ne peut pas l'être autrement. C'est l'orgueil qui fait de nous un antéchrist. C'est l'orgueil qui nous conduit à diviser pour régner, c'est-à-dire pour être à la place de la fin. Et c'est toujours l'orgueil qui joue ce rôle de ces deux exemplaires, ouais, il me semble. Vous voyez ? Ça, il faut y réfléchir, parce qu'on ne réfléchit pas beaucoup là-dessus, forcément. l'organisation de l'enfer. Mais c'est quand même intéressant de voir le rôle de la causalité exemplaire. Dès que la finalité est supprimée, la cause exemplaire est une balance. Elle transcende par séduction.
Est-ce que, par rapport au signe des temps, est-ce qu'on ne peut pas dire que nécessairement la plénitude des temps dans l'ordre du mal, elle vient au terme? À la différence, le Christ est venu à la plénitude des temps.
Oui. Et le Christ reviendra à la plénitude.
Alors, au terme.
D'accord.
Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire que nécessairement, c'est effectivement ce que je finis après Bruno Marie tout à l'heure, le mal atteindra sa pleine maturité au terme?
Ah, sûrement.
À partir du moment où le pape parle de métatorisation, on peut dire que
c'est. Ben c'est sûr.
C'est quelque chose qui n'est pas tant.
C'est quand le pape dit en sa présence de mutation qu'il n'a jamais existé, que ça peut le dire, mais attention, nous sommes à la fin.
Voilà, c'est ça.
C'est le signal d'alarme.
Et donc quand on montre que finalement les doctrines, les idéologies sont quelque chose d'ultime dans l'ordre de l'intelligence.
Oui.
Sous cet aspect-là aussi, on retrouve quelque chose qui ne peut pas. Une
idéologie athée ne peut pas aller plus loin dans l'ordre de la négation.
Voilà, c'est ça.
C'est sûr. Et ces idéologies athées, si vous les voyez comme des antithèses des béatitudes évangéliques, ça veut dire que vous ne pouvez pas aller plus loin dans l'ordre de la destruction. Et c'est pour ça que ce sont des signes qui montrent la plénitude du mal et qui montrent l'orgueil collectif. Parce que ce qui est très impressionnant, vous voyez, dans le symbolisme de la tour de Babel, alors le symbolisme de la tour de Babel, c'est assez net. Hein. Si nous prenons les 11 premiers chapitres de la Genèse comme une maquette du gouvernement divin, nous pouvons le faire. Parce que c'est au-delà du temps. L'histoire commence avec Abraham. On est tous d'accord que les 11 premiers chapitres de la Genèse sont méta par rapport au temps. Méta-historique. S'ils sont méta-historiques, ils ont donc une valeur fondamentale et première. Or, le dernier signe, après celui du déluge, où Noé apparaît comme reprenant tout, donc c'est le Christ. Les hommes n'ont pas reçu le Christ, sa miséricorde de rédempteur. Ils n'ont pas reçu le point de vue de la miséricorde, et nous sommes en présence d'un orgueil collectif, oui, de l'anonymat dans l'orgueil. C'est un orgueil collectif, la tour de Babel. On veut une unité qui ne se fait pas par la finalité, mais qui se fait par le bas, qui se fait par la causalité exemplaire. Et la causalité exemplaire anarchique où chacun veut régner. Ben, c'est ce qui me semble. Et la division des langues, c'est ça. C'est la multiplicité des textes. Bon. Après la gravité de ces signes, entrons dans la science du Christ. Alors là, nous avons quelque chose d'extrêmement important dans le point de vue de saint Thomas. Ça, il faut se dire que c'est une des questions, c'est un des aspects les plus importants, je crois, et d'une très grande originalité. Il nous faut maintenant considérer la science du Christ. C'est la vie spirituelle humaine du Christ. Notre recherche comportera d'abord l'étude générale de la science, de cette science, puis l'étude particulière de chacune des sciences possédées par le Christ. Donc nous sommes de la question 9 jusqu'à la question 13. Et vous avez les sciences particulières du Christ, qui sont la science bienheureuse du Christ. Reportez-vous donc tout de suite à la question 10. Il nous faut maintenant envisager en particulier chacune des sciences dont nous venons de parler. Pour ce qui est de la science proprement dite, nous en avons traité dans la première partie. Il ne s'agit donc ici que de la science bienheureuse, de la science infuse, de la science acquise. Donc les trois grandes divisions pour saint Thomas. Hein. Nous avons, il est vrai, dit dans la première partie, l'essentiel au sujet de la science bienheureuse qui consiste dans la vision de Dieu. Il nous suffira donc de la considérer dans ses rapports avec l'âme du Christ. Donc il y a la science bienheureuse, puis vous avez la science infuse, puis la science acquise. Oui. Alors vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas là d'une progression génétique dans le temps. Il s'agit toujours d'un regard de théologie scientifique qui essaie de comprendre la vie du Christ. Alors, la science du Christ, d'abord, de façon générale. Sur le premier point, nous nous poserons les questions suivantes. Le Christ a-t-il possédé une science autre que la connaissance proprement divine ? Y a-t-il une science dans l'âme du Christ ? Oui, nous touchons au point de vue de la vie et de vie, hein, tout de suite, puisque c'est par la connaissance que nous voyons le caractère propre de la vie, toujours. Les degrés de vie se prennent du côté de la connaissance. A-t-il possédé la science des bienheureux ? Donc ça va commander la question suivante. A-t-il possédé la science infuse ? Après, a-t-il possédé quelque science acquise ? Vous voyez que cette question, c'est de fonder l'existence d'une science dans le Christ, dans l'âme humaine du Christ. Dans l'âme humaine du Christ, il y a une science autre que celle du Verbe. Ce n'est pas si commode que ça à bien saisir, hein, puisqu'il semblerait que le mystère du Verbe, au niveau de la lumière, est tel qu'il n'y a pas d'autre lumière que celle du Verbe. Quand vous êtes en face d'une lumière tellement éclatante, il n'y a plus besoin de petits lampions, vous avez de la lumière qui éclaire tout. Tout homme venant en ce monde, le premier qui vient en ce monde, c'est Jésus, c'est l'âme humaine du Christ. Alors, la lumière, c'est le Verbe. L'âme du Christ. Elle est plongée dans cette lumière. Si l'âme humaine du Christ est plongée dans cette lumière, il n'y a plus besoin d'autre lumière. Si vous êtes dans une lumière éclatante, on fait ça instinctivement, vous savez, vous avez un petit lampion dans la nuit, hein, petite bougie à la main. Vous arrivez dans une grande salle complètement éclairée, illuminée. Qu'est-ce que vous faites ? Il n'y a pas de bonne chose que ça. Vous éteignez le petit lampion. Il n'y a pas besoin. Il y a la grande lumière. Alors vous allez allumer des petits lampions ici. Dans l'âme humaine du Christ. C'est très très joli cette question, vous voyez. Quand vous essayez de comprendre, parce que c'est la lumière du Verbe. Et c'est uni de façon personnelle. Il est non seulement dans cette salle merveilleusement lumineuse où il y a les premières places. Alors, maintenir la petite lumière à côté, et ça va jusqu'au bout, la connaissance acquise, hein, c'est extraordinaire. Alors, le principe de subsidiarité, hein, qui serait ici, c'est de voir que même si vous êtes en face de cette lumière absolue, il faut maintenir dans l'âme du Christ une connaissance propre. Autrement, il ne serait plus homme. On aurait alors le mystère de l'union hypostatique qui tyranniserait, comprenez bien, hein, tyranniserait la nature humaine en supprimant en elle la connaissance propre. On ne serait plus qu'un instrument aveugle qui serait uniquement illuminé par le verre, par la lumière, et il n'y aurait plus qu'un rôle instrumental aveugle. Or, il n'est pas un instrument aveugle, il est un instrument lumineux. Et donc, la lumière de Dieu va nous montrer la participation de cette lumière. Alors là, nous avons une participation unique. Il va participer à cette lumière dans son âme propre. Une triple participation, une participation bienheureuse, donc la plus grande qui soit. Une participation de connaissances infuses et une participation de connaissances acquises. très beau comme lieu de la participation divine. Et je crois qu'on peut bien comprendre justement ce fait que plus la lumière est forte, plus elle respecte les petites lumières. Ça, c'est merveilleux pour la vie commune. Parce que plus la lumière est forte, plus on respecte les petites lumières. Autrement, on n'est pas dans la lumière du Verbe incarné. Vous voyez ce que ça peut être, hein? C'est ça qu'il faut essayer de saisir, hein, par mode d'exemple. Ça, c'est pas la lumière. C'est plutôt du côté de l'efficacité. Alors, l'efficacité, elle fait l'inverse. Très curieux. L'efficacité tyrannise. Plus le bruit est fort, plus il supprime tous les autres. Hein. Plus l'efficacité est forte, plus elle supprime tous les autres. La lumière respecte la lumière. C'est très étonnant, ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui. C'est bizarre. Mais, oui, je suis d'accord. L'ordre spirituel, c'est quand même la lumière. Parce que l'efficacité, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'il y a ?
Pour vous, la lumière pour cette question, est-ce que c'est une énergie propre ou métaphorique avec l'ordre spirituel ?
Nous allons le voir. C'est en voyant, c'est pour ça que je dis participation, oui. Parce que là, on va tout de suite voir. Cette hiérarchie très très belle. Okay. Le Christ a-t-il possédé une science autre que la science divine ? Alors, tout de suite, la première objection. La science est nécessaire pour connaître certaines choses. Mais par sa science divine, le Christ connaît toutes les choses. Il est non seulement au point de vue de l'extension, mais au point de vue de la compréhension. Il n'avait donc pas besoin d'une autre science. C'est brutal. Donc la science du Verbe supprime tout le reste. Tout est supprimé. Alors, 7 contre 1, le petit 7 contre 1, Saint Ambroise écrit, le petit lampion de Saint Ambroise, hein, Dieu a assumé dans la chair la perfection de la nature humaine. Il a pris le sens de l'homme, mais non le sens orgueilleux de la chair. Or, la science créée appartient au sens de l'homme. C'est ad sensum hominis pertinet scientia creata. C'est très beau parce qu'il y a un petit jeu hein, là, qui joue. Il y eut donc dans le Christ une science créée. Donc c'est pour toujours respecter pleinement l'affirmation du Verbe devenu chair, c'est-à-dire le Verbe qui a assumé la nature humaine. Parce que vous pourriez très bien, vous voyez, si vous matérialisez un petit peu l'affirmation, le Verbe est devenu chair, oui, il est devenu chair, parce que la nature humaine a perdu sa science, elle n'avait pas besoin, donc elle est devenue chair. Alors, tout s'est éteint. Devant la grande lumière, tout le reste s'est éteint. Alors, saint Thomas nous dit, « Comme nous l'avons déjà noté, le Fils de l'homme a pris une nature humaine complète, intégrale, parfaite. Non seulement avec son corps, avec un corps, mais aussi avec une âme sensible et spirituelle, rationnelle. Il devait donc posséder une science créée pour 3 motifs. D'abord, pour la perfection de son âme. L'âme, en effet, considérée en elle-même, est en puissance à tous les intelligibles. Hein? Le nous, selon Aristote, est le lieu d'attente de tous les intelligibles. Le lieu de réceptivité de tous les intelligibles. Alors, saint Thomas ici dit l'âme, c'est assez beau comme manière de prendre la parole d'Aristote. Hein? Anima enim secundum se considerata est in potentia ad intelligentia considerant cognoscenda. C'est très extraordinaire ce passage du nous, et saint Thomas est très conscient en disant ça, hein? Le passage du nous à l'âme. Considérant elle-même, est en puissance à tous les intelligibles. Elle est comme une un tableau, tabula rasa, sur lequel rien ne se trouve écrit. Donc c'est le tabula rasa d'Aristote. Mais où l'on peut écrire, car par l'intellect possible, elle peut devenir toute chose, ainsi que le remarque Aristote. Aristote est là, petit lampion. C'est l'ambiance qui a quelque chose à dire en face du Verbe de Dieu. C'est très très intéressant, vous savez ça, parce que ça légitime toute la théologie. C'est ça qui légitime toute la théologie. Vous avez la foi, mais c'est évident, vous avez une lumière qui dépasse tout. Et vous êtes, il vous restait un homme. Donc soyez croyant, mais soyez intelligent. La foi ne supprime pas le développement de l'intelligence. Et c'est bien ça qui nous est montré ici. Et ça, c'est le mystère de l'incarnation. C'est une vision de l'incarnation qui est très très importante à bien saisir. Or, ce qui est en puissance est imparfait tant qu'il n'est pas réduit à l'acte. D'autre part, il ne conviendrait pas que le Fils de Dieu assumât une nature humaine imparfaite, puisque par son intermédiaire, il doit conduire tout le genre humain à la perfection. Il fallait donc que l'âme du Christ fût enrichie d'une science qui constitua sa perfection propre et par suite d'une science distincte de la science proprement divine. Autrement, l'âme du Christ serait plus imparfaite que les âmes des autres hommes. C'est évident. Être uni au Verbe serait un état de pauvreté. C'est très intéressant au point de vue de la pauvreté, ça. Oui. Parce qu'on peut faire du paupérisme chrétien. Plus je serai bête, plus je serai chrétien. Hein ? C'est pas arrivé de temps en temps. Alors on se dit, puis il faut respecter cette lumière. Il faut la respecter pleinement et totalement. Alors, la respecter pleinement et totalement, c'est dire, bon, oui, il faut que l'âme du Christ, parce qu'elle est unie à la lumière, soit une âme dans une pauvreté absolue. Or, la plus grande des richesses, c'est l'intelligence, donc il faut les supprimer. Cet homme ne dit pas ça du tout. Et il ne dit pas ça du tout au nom de toute la tradition chrétienne, hein, c'est pas son point de vue à lui. On dirait son point de vue à lui, ce point de vue, il est dominicain. Mais Saint Bonaventure, est-ce qu'il dirait la même chose? Et Saint Bonaventure dit la même chose. Là-dessus, ils sont d'accord. Saint Bonaventure dit exactement la même chose. Parce que, de fait, être uni au Verbe de Dieu implique pour la nature humaine un état de perfection. Un état de plénitude. Mais en même temps, ça va impliquer une certaine pauvreté. La pauvreté provient de l'amour et est ordonnée à l'amour. Mais la pauvreté n'est pas absolue. Si je suis pauvre, c'est pour aimer plus. Si mon intelligence est ordonnée à l'amour, mon intelligence alors coopère. Mais si l'intelligence devient orgueilleuse, qui arrête l'amour, alors à ce moment-là, c'est juste l'inverse. Donc c'est une intelligence dans la pauvreté. Tabula rasa, n'est-ce pas, l'intelligence. Tabula rasa, elle est dans un état de pauvreté, mais grâce à l'union au Verbe de Dieu, elle est parfaitement en acte. En second lieu, étant donné que toute chose existe en vue de son opération, comme le dit Aristote. Très curieux, vous voyez Aristote apparaître là. Hein. Deux fois. En second lieu, étant donné que toute chose existe en vue de son opération, comme le dit Aristote, c'est en vain que le Christ aurait une âme intellectuelle s'il ne pouvait faire acte d'intelligence. Or, ceci suppose une science créée. Enfin, il y a une science créée qui est naturelle à l'âme humaine. C'est celle par laquelle nous connaissons les premiers principes. Nous prenons en effet ici le mot « science » en un sens large pour toute connaissance de l'intelligence humaine. Mais rien de ce qui est naturel ne pouvait faire défaut au Christ, puisqu'il avait assumé toute la nature humaine, ainsi qu'il a été dit. C'est pourquoi le sixième concile de Constantinople a condamné la doctrine de ceux qui nient que dans le Christ, il y ait eu deux sciences ou deux sagesses. Bon, vous voyez bien les raisons que se prend saint Thomas. La première raison, c'est l'état de perfection d'une nature unie au Verbe. La seconde raison, c'est encore pour la question que rien de vain. Le vanum, c'est ce qui n'atteint pas sa fin. Donc la seconde raison montre qu'il ne peut dans le Christ rien y avoir de superflu. Le vain, ce qui n'atteint pas sa fin. Donc s'il y avait l'âme spirituelle du Christ sans atteindre sa fin, qui est sa connaissance, ce serait vanum. Et la troisième, c'est de montrer comment il doit y avoir dans le Christ un exercice propre de son intelligence. Vous voyez, ces deux se touchent très fort. Il y a quand même une petite différence entre les deux. Alors, il faut bien saisir la différence. Et elle n'est pas commode. Vous voyez, en second lieu, c'est le point de vue vanum, ce qui n'atteint pas sa fin. L'âme humaine, si elle ne pouvait faire acte d'intelligence, elle n'atteindrait pas sa fin. Enfin, il y a une science créée qui est naturelle à l'âme humaine, c'est celle par laquelle nous connaissons les principes naturels. Nous prenons en effet ici le mot science donc au sens général, mais rien de ce qui est naturel ne pouvait faire défaut au Christ. Puisqu'il avait assumé toute la nature humaine, ainsi qu'elle était dite. Donc c'est pour la totalité. Ça ajoute pas grand-chose. Hein. J'allais dire, c'est du côté de la finalité et d'autre côté, du côté de la perfection. Oui.
Est-ce que la science des premiers principes, c'est justement pour distinguer cette opération qui n'est pas une opération qui dépend de la démarche réfléchie.
Oui, qui montre uniquement le point de vue de la connaissance acquise. Jésus a acquis les premiers principes.
La science aussi, la science au sens propre est aussi acquise. La science au sens strict est aussi acquise. Là, ça serait plus du côté de la science expérimentale.
Oui, mais ce que j'essaie de saisir, oui, ce serait sûrement, c'est beaucoup plus du côté de la science acquise, là, dernier. Je me demandais si les trois raisons correspondaient aux trois sciences, vous voyez, ça ne correspond pas. C'est pas les mêmes choses. Mais je crois que les trois raisons correspondent tout simplement à montrer la plénitude de la nature humaine. La nature humaine dans le Christ est dans un état de perfection, première raison. La nature humaine étant dans cet état de perfection, il ne peut rien y avoir de vain, seconde raison. Cette nature humaine étant dans un état de perfection, il y a une perfection immanente. Oui. Je crois que c'est les trois raisons qui se tiennent et qui découlent tous de la première. Ces trois raisons. La première donne la clé des deux autres. L'une du côté négatif et l'autre du côté positif.
Est-ce qu'en raison de ça, on va alors affirmer qu'il y aura cet exercice constant dans l'éternité de l'intelligence, la lumière du Verbe ne supprimera pas la connaissance.
Encore dire être cogité. Née d'une cogitation sans mal de tête, cette cogitation. C'est pour ça que extra vers vous, il y a encore des discussions théologiques.
Il y aura un progrès, on va.
Il y a une pénétration tout simplement. Il y aura des cours de théologie spécialisés. Pour les thomistes d'un côté, les suarésiens d'autre, avec des cloisons.